Bonjour Immaculat, bonjour Manon, bonjour Pasteur André, bonjour à la belle-mère, bonjour à Rosie, bonjour Marie-Huguette. Que j'ai salué tout le monde jusqu'à présent. Bonjour Julie, bonjour à votre époux. Content d'être là aussi, Manon. Content de te savoir parmi nous aussi. Contente parce que ça veut dire qu'elle a eu sa collation. Bonjour Maggie. Vous avez encore un bon 9 minutes pour aller vous chercher un café. J'espère Raymond, bonjour Raymond tout d'abord. Et puis j'espère que ça va bien se passer pour Mathieu aujourd'hui qui se fait opérer au genou. Bonjour Louise, bonjour Michel. Donc là, si je ne m'abuse, les masses, on va voir. Le bruit préféré de ma belle-mère. Préféré entre guillemets. Bon, journée ensoleillée aujourd'hui, puis ça se complique pour les prochains jours. Merci Louise, merci Marie-Huguette, bonjour à mon père, bonjour à ma mère, bonjour à Marlène et à Leandro s'ils sont là. Aussi Julie. Shalom la belle-mère. Alors on continue ce matin. Notre étude de 2 Timothée au chapitre 4. Bonjour Farley, j'étais tellement content de te voir dimanche. Sois béni, j'étais très très heureux de te voir. Bonjour à la sœur Argelia. Bonjour Guy, sois béni. J'ai reçu la photo. J'ai fait quelques recherches de mon côté. Je t'écrirai bientôt concernant ta guitare. Bonjour Gérard, bonjour Denise. Très content de vous revoir aussi, Gérard et Denise. Ceux qui sont sortis de bonne heure ce matin, vers 6 h du matin, c'était frisquet. Il faisait 13 degrés en sortant ce matin. Daphné a eu peur que ça ne se réchauffe pas, bien qu'on soit rendu au mois d'août, puis donc les journées commencent à rafraîchir un peu. Mais il y a encore du beau temps pour ceux qui appellent l'été du beau temps. Vous avez encore plusieurs semaines. Et de toute manière, même rendu au mois de septembre, on a encore de très très belles journées. Hermana Marta Lucía, que Dios me la bendiga. Pascal, bonjour. Qui est probablement en route ou sur le départ vers le travail. Jean-Gilbert, aux amis, bonjour. Alors, comme c'est confirmé qu'ils sont là, on salue Marlène et Léandro. Ou on resalue Marlène et Léandro. Marie-Marthe, bonjour. Alors Marthe, tu es sur la rive sud encore? Denise, cette fois-ci de Laval, bonjour. Ouais, c'était pas chaud chaud cette nuit. Soyez prudente sur la route, Pascal. Alors 2, 3 minutes avant qu'on ne débute. Vous rappelez qu'il y a un autre rendez-vous aujourd'hui, ce soir à 19 h, en direct de l'église pour notre étude biblique. Hermana Flori, Dios me la bendiga. Gilles, Joanne, bonjour. Donc, de retour à la maison, Marie-Marthe. Tu es seule ou la demoiselle est rentrée? Alors, il reste une minute avant qu'on ne débute. Alors, permettez-moi encore une fois de vous souhaiter la bienvenue. Je vais vous dire aussi merci pour vos prières. Les deux dernières journées, le matin était un peu difficile avec des malaises avant d'entrer en onde. Donc, c'est pour ça que j'ai été absent ces deux derniers jours. C'est vrai que physiquement, c'est un peu compliqué. Mais on est là tout de même. Alors merci pour vos prières, merci pour vos mots d'encouragement qui ont été nombreux. Et puis simplement vous dire, ceux qui veulent que je prenne des vacances et que je me repose un peu, donc la semaine prochaine sera la dernière semaine des bénédictions matinales pour le mois d'août. Après ça, Daphné va être en vacances et je vais prendre off des bénédictions matinales pour le restant du mois d'août. On va se retrouver simplement au mois de septembre. Donc, ça sera environ deux ou trois semaines où il n'y aura pas de bénédiction matinale, mais on se reprendra dès le mois de septembre. Donc, la semaine prochaine, dernière semaine d'études, et après ça, on prend une petite pause. Donc c'est ça pour ceux qui s'inquiétaient pour ma santé et pour mon repos. Donc je vous laisse savoir d'avance. Alors prions et après ça on fait la lecture pour ce matin. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes, cette occasion qu'on a de plonger nos regards dans ta parole, d'étudier celle-ci et de recevoir la nourriture et le breuvage qui nous est nécessaire pour aujourd'hui. Nourriture bien entendu et breuvage spirituel, à travers lesquels, Seigneur, tu nous fais grandir, à travers lesquels tu nous transformes, et à travers lesquels tu nous permets, Seigneur, de tendre à la stature parfaite de Christ. Alors, Seigneur, relâche ta parole sur nous, relâche ton onction parmi nous, et qu'en toute chose, que toute la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent à toi, et strictement qu'à toi, nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors je lis pour vous dans 2 Timothée au chapitre 4, notre passage usuel depuis maintenant 5 semaines. Je lis du verset 6 au verset 22 et je relirai par la suite le verset 18 qui sera notre réflexion pour cette semaine. 2 Timothée 4, le verset 6 nous dit: Car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tiche à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas, et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Et je reprends donc le verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je répète, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. La thématique de cette semaine, veiller à la seigneurie de Christ dans ma vie. Veiller à la seigneurie de Christ dans ma vie. Le premier terme, donc, est le terme principal de cette semaine, et donc le terme Seigneur. Malheureusement, en tant que croyant, en tant que chrétien dévoué, en tant que chrétien pieux, Seigneur est un mot qu'on utilise régulièrement. Et c'est correct en soi, puisque Dieu est effectivement Seigneur et que l'appeler Seigneur est donc une digne appellation. Toutefois, rappelons-nous qu'à un moment donné, Jésus va dire à la foule, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur si vous ne faites pas ce que je vous demande ?» Pourquoi m'appelez-vous Seigneur si vous ne faites pas ce que je vous demande ? La question se pose pour les gens du monde. La question se pose pour la foule qui entoure Jésus ou qui entoure le discours chrétien aujourd'hui. Mais la question se pose tout à fait et tout à fait pertinente aussi pour nous en tant que croyants ou en tant que chrétiens dévoués. On devrait se poser la question à savoir quelle est la part ou quelle est la dimension de la seigneurie de Christ dans ma vie. Est-il effectivement Seigneur? Quelles sont les limites que je pose à cette seigneurie ou à ce statut sur mon existence? Il serait assurément troublant d'entendre Jésus nous dire à nous aujourd'hui « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur si vous ne faites pas ce que je vous commande ?» Ça viendrait en choquer plusieurs. Plusieurs lorsqu'on parle de faire de Jésus notre Seigneur et de tout ce que ça représente dans sa terminologie, dans son sens parfait. Plusieurs sont secoués et pensent que c'est un statut où, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est une position dans laquelle personne ne peut effectivement être un parfait serviteur face à un Seigneur aussi merveilleux. La problématique, c'est que plusieurs vont se réfugier derrière l'incapacité humaine et purement humaine à remplir les prérogatives ou à remplir les prérequis du croyant, tout simplement en prétextant « ben de toute façon, je suis pécheur, je suis humain, je suis donc incapable ». Ça serait totalement vrai et totalement approprié si, et j'ai dit bien si, il n'y avait pas ce verset qui nous dit qu'à travers lui, nous pouvons toutes choses, que par lui, tout est possible, que par lui, tout nous est possible. Alors, si tout nous est possible, il est donc tout à fait possible pour le croyant, pour l'enfant de Dieu, de vivre une vie dans laquelle Christ est effectivement Seigneur et dans laquelle nous sommes effectivement sujets de Christ. Deuxièmement, lorsqu'on parle de la seigneurie de Christ, un des grands malaises qu'il y a, c'est cette autonomie qu'on semble perdre. Ce côté un peu dépendance par rapport à Christ qui devrait se développer. Certains sont fiers de leur autonomie, voire de leur indépendance, fiers d'être capables d'être quelqu'un par eux-mêmes. Laissez-moi vous dire une chose, c'est tout à fait une fabulation. Nous ne pouvons pas atteindre le statut auquel nous sommes appelés sans Christ. Christ veut être notre Seigneur, mais c'est à travers lui que nous prenons nous recevons toute la capacité à être les sujets de Christ. Et dans cette pensée très contemporaine, voire très occidentale, où on essaie d'être indépendant de tout un chacun, indépendant de toute autorité, on a de la misère à être assujetti à Christ parce qu'on représente Christ comme les seigneurs de cette terre. Et on s'entendra qu'avec l'histoire de l'humanité, il y a très peu eu de maîtres, très peu eu de rois, très peu eu de monarques, voire de seigneurs sur cette terre qui en valait la peine. Assurément, aucun d'entre eux, même les meilleurs, ne peuvent se comparer à Christ. Lorsqu'on regarde les grands libérateurs de l'histoire de l'humanité, particulièrement en question d'esclavage ou d'esclavagisme, lorsque on a vu des présidents américains notamment se lever et renverser le mode opérationnel de l'esclavagisme aux États-Unis, même eux, ces grands libérateurs, on pense particulièrement à Lincoln notamment, même ces grands libérateurs n'étaient pas des hommes parfaits et n'étaient pas des maîtres parfaits et n'étaient pas des seigneurs parfaits. Même lorsqu'il y avait un territoire, un domaine, une propriété géré par un maître ou un seigneur, pour lesquels ces esclaves disaient « nous ne voulons pas obtenir la liberté, mais nous apprécions notre maître et nous restons chez lui », même ce meilleur des maîtres humains de cette terre ne pourrait être comparé à Christ. Lorsque j'hésite à faire de Jésus mon Seigneur, c'est que je ne comprends pas pleinement la bonté, la grandeur et l'amour de ce Seigneur. Sur cette terre, il n'y avait aucun Seigneur qui donnait sa vie pour ses esclaves. Sur cette terre, il n'y avait aucun Seigneur qui acceptait de prendre la faute de ses esclaves, prendre la faute de ses serviteurs et être jugé coupable et être jugé et mis à mort pour payer la faute de ses serviteurs. Lorsque je désire être indépendant et lorsque je rechigne à faire de Jésus de mon Seigneur, eh bien je suis en train de rechigner sur celui qui m'a tant aimé qu'il a donné sa vie pour moi, pour mon salut, pour ma vie éternelle. Vous voyez, lorsque j'ai de la facilité à accepter Jésus comme sauveur, mais de la difficulté à l'accepter comme Seigneur, c'est parce que je n'ai pas compris quel est le type de Seigneur auquel correspond Jésus. On est malheureusement aliéné par notre nature pécheresse. On est malheureusement influencé par cette nature corrompue qui est la nôtre. Et ce faisant, lorsqu'on regarde le mot « seigneurie », lorsqu'on regarde le mot « maître », lorsqu'on regarde le mot « seigneur », on le voit avec tous les sentiments de cette terre et non pas les sentiments qui devraient nous habiter par rapport à la perfection immaculée de Christ. Alors, cette semaine, il est important pour nous de ne pas demeurer dans cette pensée altérée, dans cette pensée corrompue de la seigneurie, de l'autorité, du statut de maître, de propriétaire qui peut et qui devrait en fait être concédé à Christ. Comprenons une chose, ici Paul va dire que le Seigneur va le délivrer de toute œuvre mauvaise, que le Seigneur va le sauver pour le faire entrer dans son royaume céleste. Et qu'au Seigneur soit la gloire au siècle des siècles, et il termine en disant « Amen » qui veut dire « ainsi soit-il ». Ce faisant, Paul est en train de dire la délivrance de toute mauvaise œuvre, le salut pour me faire entrer dans son royaume céleste, la gloire au siècle des siècles. Tout cela vient du fait que Jésus soit oui ou non Seigneur dans mon existence. Paul va dire, je vais être délivré parce que Jésus est Seigneur dans ma vie. Je vais accéder à son royaume céleste parce que Jésus est Seigneur dans ma vie. La délivrance, le salut, l'accès au royaume de Dieu dépend de notre statut de sujet, de serviteur, d'esclave, de Christ. Trop souvent, on veut faire de lui notre sauveur, donc celui qui efface notre péché et qui nous permet de passer outre la condamnation qui était nôtre. Mais on pense qu'il peut simplement se contenter d'être sauveur. Christ ne peut pas être simplement ton sauveur. Il doit être aussi ton Seigneur. Et c'est là où on fait souvent l'erreur dans notre évangélisation et dans notre discipulat. On enseigne aux gens que Jésus veut être leur Seigneur et les sauver de la condamnation. Mais parce qu'on craint que cette notion de Seigneur puisse les rendre réfractaires, on hésite à leur parler. Et ce faisant, le jour où quelqu'un, comme moi aujourd'hui ou comme moi il y a quelques semaines lorsque j'enseignais là-dessus à l'église, présente Jésus comme Seigneur dans toute la notion du terme, ben là on a des gens qui deviennent frileux, on a des gens qui débarquent, qui abandonnent la foi. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient un sauveur, mais pas un Seigneur. Nous ne pouvons pas dissocier Christ ni de son statut de sauveur, ni de son statut de Seigneur. C'est comme on dit en anglais un package deal, qu'on prend dans son ensemble, dans sa perfection, ou qu'on rejette aussi dans son ensemble. Jésus ne se contentera pas d'un statut de sauveur dans ta vie. Jésus doit être sauveur et Seigneur dans ta vie. La Seigneurie de Christ est donc à la base de la vie de l'enfant de Dieu. La Seigneurie de Christ est donc à la base de mon quotidien. Rappelez-vous ce que Christ est venu faire. La Bible est dit qu'il est venu nous racheter, qu'il est notre rédempteur. Le terme rachat aujourd'hui, on pense que c'est tout simplement le fait de sauver. Le terme rachat ou racheter est un terme technique, est un terme juridique, est un terme légal, est aussi un terme commercial. Rappelons-nous ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Christ a créé l'homme comme sa créature, comme sa propriété. Il a dit à Adam et Ève, ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, parce que quand vous en mangerez, vous mourrez. On sait tout ce qui s'est passé. Le serpent vient tenter Ève. Ève croque du fruit. On passe à Adam qui le prend tout à fait délibérément et qui en mange aussi. Et le péché entre dans l'histoire de l'humanité, corrompt la nature humaine et nous met en porte-à-faux avec Christ, nous sépare même de Dieu. Et nous sommes donc condamnés de par cette nature pécheresse qui se transmet depuis de génération en génération jusqu'au retour de Christ et jusqu'à ce qu'on soit dans la gloire avec lui. À partir de ce moment-là, la propriété de Christ a été contestée sur nos vies. La seigneurie de Christ a été contestée par Adam et Ève, se sont défaits de cette seigneurie et sont partis en esclavage du péché et du mal. Autrefois esclaves de Christ, serviteurs de Christ, nous sommes devenus esclaves du péché. Comment puis-je dire cela? juste dans la notion du terme qui est donné à Ève, de la description qui est donnée à Ève, on a cette notion de serviteur. La Bible nous dit que Dieu a fait une compagne à Adam. Une compagne est un terme technique qu'on ne voit plus trop ces jours-ci. Compagne, compagnon, était donc un assistant dans une tâche, était quelqu'un qui venait apporter son appui à la tâche d'autrui. Donc Ève devenait la compagne, la partenaire de travail, la collègue de travail d'Adam dans le plan et dans le mandat que Dieu avait pour lui. Il dit, il n'est pas bon qu'Adam soit seul, je lui ferai une compagne. Il n'est pas bon qu'Adam soit seul, pourquoi lui fait-il une compagne? Parce que son travail est trop lourd pour une seule personne. Donc Adam, à la base, est un serviteur de Dieu. Ève a été créée pour être compagne d'un serviteur de Dieu, donc elle aussi pour devenir servante de Dieu. Lorsque Dieu a chassé Adam et Ève, il a donc chassé, il a donc exclu, à cause du péché, les serviteurs qu'il avait. Nous sommes devenus serviteurs de quelqu'un d'autre. Nous sommes devenus serviteurs d'une autre cause qui n'était plus le royaume de Dieu, mais qui était le péché. Et lorsque Christ vient à la croix, qu'il meurt pour le salut et la rédemption et le rachat du pécheur repentant, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend les droits sur ses créatures. Rachat veut dire que on paye le prix pour ravoir de nouveau ou avoir de nouveau une propriété sur une chose. C'est comme si vous dites, voilà, j'ai une voiture, je la vends. J'ai vu tout à l'heure qu'il y a mon ami Carlos qui est là, il vend des voitures. Donc lui pourrait dire, je vends une voiture. Mais s'il veut racheter la voiture, qu'est-ce qu'il fait? Il va payer celui qui est maintenant propriétaire de cette voiture pour réacquérir les droits sur la voiture en question. Trop de personnes agissent comme si Christ nous rachetait et après ça, le droit de propriété, il signait et nous le donnait en disant maintenant tu es propriétaire de toi-même. Aucunement la parole de Dieu nous dit une telle chose. La parole de Dieu nous dit que Christ nous a rachetés. Donc il a acquis de nouveau un droit de propriété sur nous. Voilà pourquoi souvent Christ peut parler de celui qui, de ceux qui sont siens, de ceux qui lui appartiennent. Pourquoi? Parce qu'à travers sa mort, il acquiert les droits sur des gens qui étaient passés outre sa propriété pendant un certain temps. Donc Christ ne peut pas être ton sauveur sans être ton Seigneur. C'est la base de la foi chrétienne. C'est la base de la vie du croyant et de l'enfant de Dieu. Alors, Christ peut-il se comporter dans ta vie comme un propriétaire? Christ peut-il se comporter dans ta vie comme un réel Seigneur? Vous savez, un roi à l'époque, on ne parle pas de la reine Élisabeth ou de tous les monarques qu'il peut y avoir actuellement qui sont davantage des titres honorifiques qu'autre chose, bien qu'ils aient une portée légale, puisqu'on dit que la reine Élisabeth est quand même la personne en autorité sur le Canada. Il n'y a pas une loi qui se fait sans qu'elle n'ait été passée par l'approbation, entre guillemets, du représentant de la reine. Et voilà pourquoi on a encore des lieutenants-gouverneurs et on a encore j'ai oublié l'autre, lieutenant-gouverneur et puis l'autre, c'est quoi? En tout cas, on a encore le représentant de la reine au Québec et au Canada, gouverneur général. Voilà. Voilà pourquoi ils sont encore en titre et en position dans tout le Commonwealth, dont au Canada. Mais cette reine a peu de pouvoir. À l'époque, il y a des centaines d'années, lorsqu'en France, il y avait encore la monarchie, voire par la suite, lorsqu'il y a eu l'Empire avec Napoléon, et lorsque la monarchie a été rétablie pendant un petit temps en Angleterre, jusqu'à ce qu'il y ait un parlement qui soit établi, le roi, la reine, avaient des sujets, et le roi et la reine avaient droit sur toutes les facettes de la vie de ces sujets. Et c'est ça, avoir un roi. On voudrait avoir un roi honoraire ou honorifique dans notre vie. On voudrait avoir un roi sans puissance et sans autorité dans notre vie. Ou du moins un roi qu'on est capable de contrôler et à qui on établit des limites. Voici, tu as le droit d'intervenir jusqu'à telle chose. Voici, tu as le droit de regard jusqu'à quel niveau dans notre vie. Ce n'est pas ce genre de roi, ce n'est pas ce genre de monarque, ce n'est pas ce genre de seigneur que Christ est ou que la Bible nous enseigne que Christ est. Le type de seigneur qu'il est le type de seigneur qui a racheté en bonne et due forme le croyant, donc un pécheur repentant, et qui met entre les mains de son seigneur le restant de son existence. Alors posons-nous la question aujourd'hui, et je vous invite, vous, à vous poser la question pour vous-même, mais aussi à poser la question à Christ, à poser la question au Seigneur. Jésus, es-tu pleinement Seigneur dans ma vie? Jésus, es-tu pleinement, as-tu pleinement les droits sur ma vie? T'ai-je donné pleinement droit de regard, droit d'intervention, droit de veto sur mon existence. Demandons au Seigneur comment il se sent dans sa seigneurie dans ma vie. Est-il oui ou non, pleinement, totalement, complètement Seigneur de ma vie? Et par conséquent, ça va révéler en même temps quel est mon statut de sujet. Suis-je un sujet? Suis-je un serviteur pleinement acquis à mon Seigneur? Ou suis-je réfractaire à l'autorité de mon Seigneur, à la seigneurie de Christ en moi? Prions. Seigneur, et ce mot-là devient plus lourd pour nous aujourd'hui ou en sens. Nous devons nous poser la question et nous nous posons la question. Est-ce qu'effectivement nous t'avons donné tous les droits de seigneurie sur notre vie? Assurément, on s'est réjoui de ce que tu nous as aimé jusqu'à donner ta vie pour nous sauver. Mais tu fais bien plus que nous sauver. Cet acte que tu as accompli à Golgotha et au Calvaire, c'est un acte de rédemption et un acte de rachat. Et c'est les mensonges du diable à la sauce très contemporaine et occidentale qui nous laissent croire que tu deviens notre sauveur simplement pour nous donner l'acte de propriété à notre nom. Non, non, non. Tu nous as sauvés pour être notre Seigneur. Tu nous as sauvés pour reprendre les droits sur notre existence. Et si nous comprenions pleinement quel type de Seigneur tu es, si nous comprenions pleinement que ton autorité qui s'accomplit, qui se manifeste de façon parfaite dans notre vie, veut dire aussi que nous menions la plus parfaite des existences, assurément, on hésiterait bien moins à te laisser la main mise sur notre vie. Seigneur, viens laver notre compréhension. vient purifier notre définition de ce qu'est un Seigneur. On te regarde, on regarde ta Seigneurie et on l'aliène, on la compromet par nos définitions humaines et par les exemples humains de Seigneur, de Roi, de Monarque et de Maître. Aucun ne t'est comparable. Aucun ne t'est comparable dans ta puissance, dans ta gloire. Aucun ne t'est comparable dans ton amour, dans ta grâce, dans ta miséricorde. David, qui était le plus grand roi de l'histoire d'Israël, David, qui était au sommet de sa puissance et de sa gloire, disait « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. » Il préférait être dans ta maison, là où tu es propriétaire, là où tu es maître, là où tu es seigneur. Il préférait être ton serviteur dans cette maison que d'être n'importe où ailleurs. Permets que cette même pensée nous habite et vienne réformer, changer, transformer, purifier notre notion de qui tu es et notre notion, notre compréhension de ta Seigneurie. Afin, Seigneur, que nous ne soyons plus sujets au péché et à notre nature pécheresse qui nous rend réfractaires à devenir sujets de Christ, serviteurs de Christ, esclaves de Christ. Mais que la seule pensée de t'avoir au-dessus de nous, dans ta parfaite domination, toi le maître par excellence, toi le maître sans reproche, sans faille, sans iniquité, sans lacune. Seigneur, on serait insensé de courir ailleurs et insensé de chercher notre propre leadership et autorité. Alors, je prie que ma sœur, ce matin ou dans les prochaines heures, prenne à cœur de te remettre pleinement sa vie en tant que Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère qu'il prenne cette décision ferme et définitive de te remettre son existence pour que tu sois Seigneur sur celle-ci. Et moi, Seigneur, je renouvelle mes vœux à ton égard en implorant ta grâce pour toutes ces occasions où j'ai été insoumis, où j'ai été réfractaire, où j'ai remis en question ton autorité, ton droit de propriété, de regard, de veto et d'intervention dans ma vie. Je veux me soumettre à toi, sachant qu'il n'y a pas un meilleur endroit que d'être sous ta couverture. Je t'ai prié dans le précieux, glorieux et merveilleux nom du Seigneur que tu es, Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Encore une fois, merci d'avoir été là. Désolé pour ces deux journées d'absence où j'étais un peu moins bien. Aujourd'hui, j'ai pris certaines mesures pour être là. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je l'ai annoncé en début de séance aujourd'hui, la semaine prochaine sera la dernière semaine de bénédiction matinale pour le mois d'août. Daphné va être en vacances, donc je vais prendre aussi relâche pour les deux prochaines semaines, les deux suivantes plutôt. Donc à partir du 15 août, je ne serai pas là jusqu'à la fin du mois d'août. On vous rappelle ce soir, étude biblique avec le pasteur André à l'église. Il nous parle du livre de Jonas. Et puis, nous, on se retrouve demain matin, Dieu voulant, pour notre prochaine bénédiction matinale. Sur ce, que Dieu vous bénisse et merci encore pour vos prières, votre soutien et merci d'être là. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée.